culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Plus dans Franche Culture. Cette semaine, nous fêtons les 20 ans de Radio Campus. Et c'est l'occasion d'une émission spéciale hors les murs, avec à nos côtés l'équipe technique de la radio, Étienne et Hugo. Avec moi pour animer cette émission aujourd'hui, Dominique. Franche Culture a choisi de s'installer dans les locaux de l'association Sauvegarde de l'Anjou, rue Lyonnaise à Angers. L'association qui vient juste de changer de nom pour FNE Sauvegarde de l'Anjou, mais on vous expliquera ça après. Nous sommes donc au cœur de la Doutre, aux sources de son histoire et de sa vocation. Deux mots pour qualifier Sauvegarde de l'Anjou: la sauvegarde du patrimoine au sens large, c'est-à-dire le bâti et l'environnement naturel, et surtout une vision à long terme. Les arbres, la Loire, les moulins, les maisons paysannes et le secteur sauvegardé, autant de sujets traités par l'association.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Et nous sommes accueillis aujourd'hui par Régine Bruny. Régine, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes coprésidente de FNE Anjou.
Oui.
C'est bien ça. Jean-Luc Guéniard, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous êtes ancien ingénieur de l'INRA et surtout le spécialiste des arbres dont on parlera pas mal aujourd'hui. Et enfin, Xavier Mété.
Bonsoir.
Et vous êtes coordinateur de FNE Pays de la Loire. Alors je vais commencer par vous, Régine Bruny. Vous êtes bénévole, spécialiste des dossiers sur les atteintes à l'environnement et les risques industriels. Mais je vais vous demander tout d'abord de nous parler rapidement de l'histoire et de l'origine de Sauvegarde de l'Anjou.
Oui, eh bien la Sauvegarde de l'Anjou est née en 1965, mais elle a des origines, disons, un peu plus anciennes, c'est-à-dire que dans ce quartier, il y a eu des personnes qui se sont mobilisées fortement parce que ce quartier de la Doutre a toujours eu une histoire particulière avec des commerçants, des artisans et des, comme je le disais tout à l'heure, dès 1935, il y avait déjà une organisation d'associations de la population ici. Donc, cela a créé une émulation et la sauvegarde de l'Anjou, qui s'appelait la sauvegarde du vieil Angers en 1965, avait un but très prononcé pour la protection des sites, des monuments et des vieilles demeures de la ville d'Angers.
Et particulièrement de la Doutre.
Et particulièrement de la Doutre, en effet, où elle a son siège depuis toujours. Donc, il y a eu une évolution depuis, hein, c'est-à-dire une évolution naturelle, puisque, voilà, une évolution naturelle où les dossiers qui nous ont été soumis par la population, eh bien, ont évolué davantage vers des problématiques environnementales. Donc,
ça commençait à quelle époque, ça, à peu près? Quand est-ce qu'il y a eu cette bascule entre le... Enfin, pour considérer finalement que la sauvegarde, ce n'était pas que des monuments historiques, mais aussi tout notre environnement naturel.
Alors, on peut considérer que ça a été vers 1980, 1978, puisque c'est à ce moment-là que l'on a été agréé par les pouvoirs publics pour prendre la défense de l'environnement. Donc ça date de 1978, donc déjà à l'époque, il y avait cette demande de dossiers sur des dossiers environnementaux, déjà.
Et une accélération récente à partir
de
2015.
Absolument. Depuis,
où on voit dans votre historique qu'on va de plus en plus vers la protection de l'environnement, mais pas que, puisque le patrimoine reste quand même dans les missions. Le patrimoine bâti et historique reste quand même dans les missions.
Tout à fait.
Je vais me tourner tout d'abord vers Jean-Luc Guéniard. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage en librairie, Du roi René à Végépolis, Les plantes naissent et fleurissent en Anjou, c'est le sous-titre. Alors, les arbres, la protection des arbres, quelle est l'origine de cet engouement assez récent finalement?
Allez, c'est en 2018 que sur la ville d'Angers, un certain nombre d'arbres ont été abattus pour l'aménagement du passage du tramway, et surtout quelque chose qui a été un élément détonateur dans le cadre d'un projet de construction sur le secteur de l'âtre de Tassigny.
Il y avait là un producteur de graines de fleurs, il me semble.
Graine de fleurs, mais surtout il y avait un séquoia nain, qui est un arbre très très rare, et qui, dans le cadre du permis de construire qui avait été signé par la ville, eh bien, allait être abattu. Et là, ça a très très vite réagi, des journalistes, mais aussi des angevins qui nous ont interpellés, et une pétition a été lancée, et il y a eu des milliers de signatures en très peu de temps, et bien sûr, ça a entraîné une discussion avec la mairie d'Angers, qui a immédiatement mesuré l'erreur et a revu le permis de construire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un garage automobile, enfin un concessionnaire, qui le séquoia est toujours là. Et quand il a lancé sa communication sur les arrières de bus, on voyait la marque automobile et au premier plan le séquoia. Donc tout le monde était content.
Finalement, ils sont très contents. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'un arbre remarquable ? Comment on peut classer un arbre ?
Alors pour nous, un arbre remarquable. Alors il y a une association nationale, il faut faire attention, qui s'appelle ARBE, qui labellise les arbres remarquables avec une certaine, disons, qualité, importance. Nous, on est plutôt dans les arbres remarqués, et les mairies utilisent le terme de remarquable en parallèle de ce mot remarqué. Remarqué, c'est quoi ?
On a remarquable et remarqué.
Oui, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est-à-dire la hauteur des arbres qui ont plus de 50 ans, leur rareté dans le département, qui marque le paysage, des arbres phares un peu.
Comment ? Symbolique, en fait.
Symbolique, oui. Mais pas que. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, sur Bushman, il y avait un séquoia sur les bords de... Non, un pin parasol qui dominait la Maine, tout le secteur de la Maine, et on le repérait tout de suite. On savait que ce pin parasol était unique, c'était un site, c'était la pivertière. Donc des arbres comme cela qui marquent, qui sont des phares quoi, dans le paysage. Également la mise en valeur mutuelle entre les arbres et le bâti. Par exemple, sur le secteur de, je vais reprendre Bushman, La Pointe, avec un collègue, on a caractérisé une soixantaine d'arbres qui sont très liés au bâti, aux petits châteaux, aux petites demeures et au bord de la Loire. De la Loire. Donc, tout cet ensemble concourt à ce qu'on fasse l'inventaire, on les caractérise. Et là, c'est là la sauvegarde qui, avec des étudiants en 2019, a mis au point une application qui est tout à fait accessible sur notre portable et qu'on peut très bien utiliser au fil de nos balades. Et là, la sauvegarde a organisé des premiers inventaires participatifs dans les quartiers, mais aussi dans les communes périphériques, pour justement repérer et caractériser ces arbres.
C'est-à-dire que moi, je me promène j'ai un jardin, je vois chez mon voisin, qui est un bûcheron, un arbre que je trouve magnifique, je peux le signaler sur l'application.
Sur l'application, en effet, tous les arbres qui sont dans le domaine public ou qui se voient dans la rue, qui sont un patrimoine commun finalement, nous pouvons en effet les intégrer dans l'application. Alors il suffit d'aller chercher arbres remarqués en joue et vous allez arriver sur l'application et vous allez avoir un menu défilant, photographie, caractérisation, le nom commun au moins, plus si vous pouvez le faire, et des caractéristiques. Il y a aussi, dans les caractéristiques, la biodiversité hébergée. Par exemple, on y a repéré des écureuils, on y a repéré des oiseaux, etc. Tout cela, donc, va être entré dans la base. Mais notre démarche suivante, cette base, aujourd'hui, compte à peu près 800 arbres ou alignements ou espaces boisés.
Dans l'agglomération d'Angers ?
Un petit peu au-delà, mais l'essentiel dans l'agglomération.
En combien d'années vous êtes arrivé à
ça s'est fait sur deux ans, à peu près.
Oui, c'est phénoménal.
Et ensuite, l'objectif suivant, et le plus, enfin, qui est aussi très important, c'est que ces arbres soient intégrés, inscrits dans les plans locaux d'urbanisme. Parce qu'à partir du moment où ils sont inscrits, on ne peut plus les abattre, sauf s'ils présentent un danger, de la sécurité, ou ils sont malades. Donc ça, c'est très important.
Vous posez, si un arbre est juste classifié comme arbre remarquable ou arbre remarqué, il peut être abattu quand même.
À partir du moment qu'il sera inscrit dans le plan local d'urbanisme de la commune concernée ou de l'agglomération d'Angers, non, il faudra consulter la mairie pour demander l'autorisation de l'abattre et avoir des arguments qui seront essentiellement des questions de sécurité ou qui présentent un problème de maladie.
Oui, vous voulez intervenir, Xavier Mété.
Oui, parce que c'est justement la force de cette application, de cet inventaire participatif, c'est que ça part du terrain, c'est des citoyens qui repèrent un arbre remarqué, un arbre remarquable à côté de chez eux, et qui veulent justement le faire connaître et le protéger. Alors participer, l'inventorier sur cette base de données permet de partager la connaissance, la FNE en joue, en prend connaissance, et après va accompagner les riverains justement pour faire des démarches auprès de la collectivité pour qu'ils soient classés et donc protégés. Et c'est ça tout l'intérêt de cette démarche.
Oui, c'est...
L'association locale adhérente à la FNE 49 qui vont s'en emparer et qui vont après aller le défendre devant, devant la mairie pour l'inscrire au PLU.
En fait, effectivement, de faire participer la population, ça a donné une force à votre travail. Le travail de fourmi, vous n'avez pas eu le faire, en fait. C'est la population. Enfin, vous l'avez sûrement fait, mais la population
avec
l'amplifie.
La population, oui. Mmh.
Très bien. Régine Bruni, en Anjou, si j'ai bien compris, enfin, FNE Anjou, c'est une association ou une fédération, je n'ai pas bien compris. Mais en tout cas, il y a 21 associations membres avec plus de 37 500 militants. C'est énorme. Alors, on ne va pas parler de tout. Là, on vient de parler des arbres. Je voulais qu'on parle de deux ou trois missions phares importantes actuellement, et notamment peut-être commencer par l'association pour la sauvegarde des moulins d'Anjou.
Oui, en effet. Alors, la sauvegarde, l'AMA, hein, qui est l'association des moulins d'Anjou, est une association qui est adhérente de FNE Anjou depuis très longtemps. Pourquoi ? C'est effectivement historique dans la mesure où il n'échappe à personne qu'il y a à la fois des moulins sur l'eau, mais des moulins aussi sur des collines et qui représentent un patrimoine bâti remarquable. Et à l'origine, les moulins d'Anjou se sont tournés vers ce qui était la sauvegarde, pour avoir leurs intérêts défendus lorsqu'il pouvait y avoir des atteintes à leur patrimoine. Et donc, la sauvegarde des moulins est restée adhérente donc à notre fédération. C'est bien une fédération départementale qui a une vingtaine, comme vous l'avez indiqué, une vingtaine d'associations membres. Et donc, voilà, aujourd'hui, l'association des moulins est toujours à nos côtés, même si quelquefois...
Une particularité quand même, oui. Ce sont les moulins à eau, les moulins dans les rivières,
oui.
Parce que là, il y a énormément de problèmes écologiques qui se posent. Il y a la défense du bâti et l'écologie qui parfois s'oppose, si j'ai bien compris.
Alors, c'est vrai que de temps en temps, il y a des difficultés, c'est-à-dire que les moulins donc, doivent assurer la continuité écologique, c'est-à-dire que à la fois les espèces, les poissons, doivent pouvoir franchir les barrages et aussi le transport des sédiments, c'est-à-dire tout ce qui s'accumule derrière le barrage, doit pouvoir s'en échapper, c'est-à-dire ce qu'on appelle le transport des sédiments. Et donc, il faut que les vannages soient faits, que les barrages soient ouverts, et pour que les poissons puissent remonter jusqu'à leur lieu de reproduction, il faut faire des aménagements, parfois des rivières de contournement, parfois des passes à poissons qui ont un impact là aussi très fort sur l'environnement.
Oui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, effectivement, ce patrimoine n'a pas été très bien considéré il y a une cinquantaine d'années. On considérait que c'était du patrimoine industriel, donc du patrimoine un peu secondaire. Pourtant, le patrimoine fluvial dont il est question, c'est-à-dire les écluses, les minoteries, les canaux de dérivation, les déversoirs et même les maisons éclusières font aujourd'hui complètement partie de notre patrimoine. Et c'est ce qui permet aussi de mettre en valeur ces circuits de vélotourisme qu'on a aménagés le long de toutes ces rivières. Donc je suis comme vous très attentif à ce qu'on puisse conserver ce patrimoine et trouver les solutions pour éviter effectivement que ça ne puisse porter atteinte à l'écologie de ce système de rivière. Mais tous ces éléments de ce patrimoine industriel doivent, à mon sens, être réhabilités. Alors, ça peut être des maisons d'hôtes, ça peut être aussi des sources de production hydroélectrique. Enfin, j'imagine que vous travaillez sur tous ces sujets.
Oui, après, tous ces dossiers-là sont vus de façon particulière. Chaque dossier est particulier. Donc, même s'il y a des règles et aussi une législation qu'il faut respecter, eh bien, c'est avec les services de l'État que cela se discute et aussi avec le propriétaire. Évidemment, il faut avoir beaucoup d'ambition et donc les discussions sont longues et ça peut être aussi intéressant de s'appuyer avec un sociologue et avoir plusieurs mois, voire années de construction pour aboutir à un projet où tout le monde soit, on va dire, à peu près satisfait.
Xavier Mété.
Ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que ce n'est pas binaire, ce n'est pas un ouvrage, un obstacle, un moulin à eau, etc. Ce n'est pas tout bon ou tout mauvais. C'est lorsqu'un ouvrage a eu une histoire, a servi à un moment donné, s'il sert encore et qu'il permet la continuité écologique, parce qu'en fait, en ouvrant les vannes, etc., on va assurer la transition des sédiments, la transition, la continuité des poissons. Aujourd'hui, on a aussi de nombreux ouvrages qui ne servent plus, qui ne sont plus entretenus, plus suffisamment entretenus. Et c'est ces ouvrages-là qui posent des problèmes sur la biodiversité. Donc, comme le disait Régine, on ne peut pas mettre tout dans un sac, c'est au cas par cas. Et il y a de très bons cas d'école où tout s'est bien passé. Puis effectivement, dans le département, on a parfois des blocages. Mais j'insiste bien sur l'usage de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on peut continuer à avoir un usage pour rappeler l'histoire, rappeler son rôle et avoir un rôle touristique, effectivement. Puis on a dans certains cas, effectivement, c'est plus la biodiversité, l'enjeu écologique qui va avoir le dessus aujourd'hui.
Avant de passer au sujet suivant ou à d'autres sujets, je voudrais rappeler que nous sommes toujours à l'écoute de Franche Culture sur Radio Campus et nous sommes dans les locaux de l'association Sauvegarde de l'Anjou, rue Lyonnaise, au cœur de la Doutre. Dominique, à vous.
Oui, je voulais juste rajouter un dernier petit mot à propos des moulins, sur les moulins avant cette fois. On parlait de l'aspect remarquable de certains arbres. Les moulins sont en général des phares dans le paysage. On considère tous qu'il est important de les sauvegarder. C'est beaucoup plus compliqué, je crois, encore qu'un moulin à eau, parce que eux ne fonctionnent pas suffisamment pour connaître une bonne endurance. Et on sait que ces ouvrages en bois qui sont exposés aux intempéries pourrissent malheureusement assez rapidement, beaucoup plus rapidement d'ailleurs qu'à l'époque où ils tournaient régulièrement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à la remise en place de certaines ailes sur des moulins ici ou là ?
Alors, notre fédération, plus exactement, FNE Anjou, n'a pas directement participé. C'est vrai que c'est un patrimoine aussi remarquable. Hein. On peut penser aux moulins caviers, qui sont des structures étonnantes, hein, je trouve. Ces moulins. Alors, c'est un moulin qui a un axe avec. Une sorte de promontoire, j'ai un peu de mal à l'expliquer, carré, et au-dessus du moulin, c'est très particulier, on en voit encore quelques-uns. Sur les ailes dont vous parlez, des moulins qui peuvent s'abîmer, effectivement, il y a des endroits où ça a été restauré, il y a des aides qui sont prévues, mais aussi tout dépend de la qualité du travail. Il s'avère que dans le Segré 1, nous avons une entreprise, je crois que c'est l'entreprise Croix, qui est vraiment très pointu sur ce domaine et qui avait restauré le moulin d'Angry qui est sur la route Angry-Candé. Donc ça, ça a été restauré. Donc oui, ça se fait encore.
Toujours une très grande attention aussi au moulin avant.
Oui, bien, vous avez raison. Hein, ça D'accord. fait partie aussi du patrimoine. Et il y a un excellent ouvrage qu'on peut trouver dans l'association des moulins d'Anjou qui reprend en fait quasiment, pas tous, mais quasiment tous les moulins qui existent, que ce soit des moulins à eau ou des moulins à aile.
Alors, une autre association qui est très active dans le département, les Maisons Paysannes d'Anjou.
Oui, alors c'est une association effectivement qui est vraiment très intéressante, qui s'intéresse de très près au patrimoine bâti, que ce soit tous les monuments historiques. Elle promeut leurs connaissances, que ce soit les châteaux, les églises, les monastères.
C'est pas très paysan les châteaux quand même, hein.
Alors, non.
Elle porte mal son nom.
Alors, oui, vous avez peut-être raison, hein, mais elle a aussi une vocation, une fonction qui est extrêmement intéressante, c'est qu'elle s'intéresse aux constructions, aux manières dont étaient construits les bâtiments autrefois, et elle soutient ses adhérents dans l'amélioration de leur propriété, qui peut être ancienne, pour leur éviter de faire des bêtises. Parce que quand on ne connaît pas à la fois les matériaux, hein, autrefois on n'avait pas de ciment, on utilisait soit de la terre directement. J'ai vu récemment une partie de château qui avait été construite avec des pierres et uniquement de la terre, il n'y avait rien d'autre, ou du sable. Et donc qui remet au goût du jour, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais qui instruit ses adhérents, y compris avec des chantiers où chacun met la main à la pâte. Alors ça, c'est extrêmement intéressant et elle vous évite aussi de faire des bêtises, je pense par exemple aux ouvertures. Et ça me semble vraiment...
Sur le terrain,
c'est ça. C'est
accompagné peut-être par des artisans ou d'anciens
oui,
professionnels.
Ou des anciens, voilà, ou des gens
donc
qui
c'est,
se sont...
C'est des savoir-faire traditionnels
c'est ça.
Qui sont remis au goût du jour et qui sont enseignés pour permettre aux gens de restaurer dans les meilleures conditions possibles.
Oui, et ça, c'est important parce que quand on est dans nos campagnes, hein, on n'a pas tous d'abord tous les mêmes moyens financiers. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet à chacun de s'approprier des techniques, puis après de les mettre en place. Et ça, si vous voulez, ça conserve notre patrimoine commun, c'est-à-dire dès qu'on va dans nos campagnes, parce que là, ce sont sur des maisons particulières, et ça fait partie de cette conservation de notre image, de notre environnement, de ce qui nous a construit nous-mêmes. Oui, hein,
est-ce que vous pensez que l'association monte des chantiers de jeunes bénévoles, par exemple, pour aider à des restaurations un peu lourdes ?
Alors, sans doute faudrait-il leur poser la question. Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais pourquoi pas ? Après, c'est toujours l'encadrement qui...
Oui. Mais
qui
l'association ne fait pas part de ces chantiers-là.
Alors, il y a l'association nationale, peut-être, a plus de moyens, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une question à creuser. Et il faudrait certainement voir avec eux. Mais ils ont une assemblée générale... le 13 mai, donc je pourrais leur poser la question.
À propos de ce patrimoine bâti, la Fédération étudie toutes les révisions des plans locaux d'urbanisme. Et ce patrimoine bâti, la Fédération 49, donne très souvent des avis sur justement la sauvegarde d'un bâti ancien qui peut être menacé par certains plans locaux d'urbanisme qui ne les intègrent pas. Et on l'a fait récemment pour une commune dont on ne donnera pas le nom, où il y avait vraiment un bâti auprès d'une église dans un village vraiment très, très, très agréable. Et là, on allait construire un immeuble. Eh bien, la Fédération défend aussi, au niveau départemental, ce bâti ancien pour essayer de le sauvegarder, quoi. Dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, qui est une étape très importante, puisque si on loupe ça, malheureusement, ça peut être...
Et après, c'est irréversible, effectivement.
Oui, il peut se passer, ça peut être abattu ensuite, quoi. Alors que là, on essaye de les sauver.
Alors, on pourrait parler du patrimoine du Grand Angers. Là, je laisse la parole à Dominique, hein, le spécialiste.
Je voulais un peu parler de... depuis de très nombreuses années, la sauvegarde de l'Anjou réclamait la création de ce site patrimonial remarquable. Il a été adopté il y a 4 ans. Il couvre 1650 hectares. C'est toute la vallée de la Maine. On attend avec la même impatience la sortie du secteur sauvegardé. Ça, c'est le cœur de ce premier site. Il ne fait que le dixième du premier. Mais le document vient de sortir. Il est exposé au public au Repère Urbain. Ça, c'est le local qui est dédié au patrimoine de la ville d'Angers, au milieu du Jardin des Beaux-Arts. J'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport que vous aviez établi pour le premier site, le grand site. Est-ce que de la même manière, vous allez établir, décortiquer finement ce deuxième document pour apporter tout votre savoir-faire dans cette défense du patrimoine ?
Écoutez, merci. Hein. C'est vrai que la sauvegarde, depuis des années, réclamait ce travail, que ce travail soit fait. C'est le cas. Évidemment qu'elle va regarder les propositions. Après, le travail qui avait été fait était très conséquent au niveau de la première étape. Évidemment, c'est un travail qui est fait par nos bénévoles. Donc, voilà, il faut de la disponibilité. On espère, et je pense que ça peut être, voilà, c'est une étape nouvelle, mais nous allons regarder effectivement. On n'a pas encore, si vous voulez, dégagé de grandes lignes de ce dossier.
Ce que je crois savoir, c'est si l'association s'est installée rue Lyonnaise à Angers, c'était, comme vous l'avez expliqué au début, pour défendre les intérêts de la Doutre. Et que si l'association n'avait pas été présente, n'avait pas manifesté sur le pavé de la rue Lyonnaise, la Doutre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, et il n'y aurait pas de secteur sauvegardé d'ailleurs. Que l'association ait commencé ses travaux de défense du patrimoine il y a une soixantaine d'années, parce que finalement nous en recevons tout le bénéfice aujourd'hui.
Absolument, une partie de la Doutre avait été commencée à être démolie, hein. C'est le secteur Saint-Nicolas, et effectivement, heureusement, tout a été ce secteur de la Doutre, par un combat qui a été mené par des acteurs très forts, hein, et qui avait aussi beaucoup de poids auprès des élus, eh bien oui, voilà, c'est aujourd'hui.
Nous comptons beaucoup sur
fiers,
vous.
On est très fiers de
nous
ça.
Nous comptons beaucoup sur vous pour avoir ce même regard technique sur ce nouveau document pour qu'il soit parfaitement élaboré.
Régine Bruny, justement, je voudrais voir, comprendre un petit peu la force qu'a l'association. Alors, je rappelle, c'est FNE, donc France Nature Environnement Sauvegarde de l'Anjou. Et là, je vais me tourner vers Xavier Mettez. Pour comprendre la FNE, qu'est-ce que c'est, comment tout ça fonctionne, et voir avec vous tous justement comment vous avez du poids, dans quelle commission vous êtes. Mais tout d'abord, FNE, qu'est-ce que c'est ?
France Nature Environnement, c'est une fédération nationale qui a des représentations à l'échelle régionale. Donc en Pays de la Loire, nous avons France Nature Environnement Pays de la Loire, fédération régionale, basée aussi à Angers, qui agit sur l'ensemble de la région. Et puis nous avons la chance d'avoir en Maine-et-Loire une fédération départementale qui a plus de 55 ans, qui s'appelait la Sauvegarde de l'Anjou, qui s'appelle maintenant France Nature Environnement Anjou. Voilà. Et donc, en fait, on a vraiment un système pyramidal d'associations, avec donc des associations locales qui adhèrent à une fédération départementale qui agit donc à l'échelle de ce territoire-là sur l'entièreté des sujets liés à l'environnement. Hein. C'est l'énergie, l'eau, les déchets, l'agriculture, le patrimoine bâti, etc.
C'est extrêmement large.
C'est très, très large. C'est tout le champ de l'environnement. Hein. Ça peut être aussi les sujets santé-environnement, notamment, je pense, aux ondes électromagnétiques, aux problèmes phytosanitaires, des choses comme ça. Et puis donc, après, dans chaque région, nous avons une fédération régionale qui s'appelle FNE quelque chose. Donc on a FNE Bretagne, FNE Pays de la Loire, FNE Nouvelle-Aquitaine. Et donc c'est un mouvement au niveau national de plus de 9000 associations, hein, différentes. En région Pays de la Loire, c'est une centaine d'associations qui sont membres de ce mouvement-là. Puis vous l'avez dit tout à l'heure, dans le département du Maine-et-Loire, dans l'Anjou, il y a 21 associations qui adhèrent donc à la fédération départementale qui s'appelle depuis le 11 mars dernier FNE Anjou.
Alors, vous vous appuyez sur des spécialistes techniques. On a vu, Monsieur Guignard, que vous veniez de l'INRA. Et vous êtes présent dans des commissions, si j'ai bien compris. Comment êtes-vous et pourquoi présent dans des commissions ?
Alors, oui, comme je vous le disais au début de notre entretien, la Sauvegarde de l'Anjou est agréée pour l'environnement et le patrimoine. Et donc, elle siège dans les commissions préfectorales, c'est-à-dire que ce sont des commissions qui sont désignées par arrêté préfectoral. Je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a énormément. Une qui est importante, c'est le CODERS, qui veut dire Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologies, où on traite à la fois des dossiers eau, des dossiers d'élevage, des dossiers industriels. On participe également à la commission des sites et des paysages, où là, on étudie au niveau régional tout ce qui peut être atteinte au patrimoine. Voilà. Et aussi, une qui peut être importante, que je voulais vous citer, c'est la commission publicité. Où s'étudie le règlement local de publicité avec où est-ce qu'on place, où est-ce qu'on peut poser par exemple des panneaux publicitaires, à quelle densité, etc.
Qui concerne ce qui concerne vraiment, vraiment tout le monde. Vous avez un rôle décisionnaire ou consultatif dans ces commissions ?
Alors, consultatif, bien sûr,
d'accord.
Mais il n'échappe à personne que la FNE en joue, donne des avis. On espère qu'ils vont être
écoutés.
S'ils ne sont pas écoutés, quelquefois, on va un petit peu plus loin, on tape un peu du poing sur la table et on va même au recours administratif si besoin.
Jean-Luc Guignard, vous vouliez intervenir aussi.
Oui, sur un exemple plus limité au niveau des arbres. Nous avons écrit une charte de l'arbre pour les protéger en plus de cette protection dans les plans locaux d'urbanisme. Et on travaille actuellement dans un groupe de travail avec la ville d'Angers pour élaborer une charte pour la ville d'Angers et qui, nous l'espérons, sera utilisée ensuite dans les communes de l'agglomération, par exemple. Donc, vous voyez, on travaille le plus possible en synergie avec les pouvoirs publics pour avancer.
Donc, vous êtes vraiment...
Nos idées, nos pratiques, nos connaissances techniques qu'on peut apporter avancent pour le bien-être le cadre de vie de la population.
Alors, on n'a vraiment plus que 30 secondes. Il y avait trop de choses à dire. Xavier Mété, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ?
Une petite annonce. Angers va accueillir l'Assemblée Générale 2023 de France Nature Environnement National les 9 et 10 juin 2023 au Centre des Congrès. Et donc, c'est plus de 200-250 personnes de toute la France qui vont venir participer à cet événement associatif à Angers au mois de juin.
Et bien voilà, une bonne date pour FNE
Anjou.
FNE Anjou, pardon. Merci à vous, Régine Bruny, Xavier Mété, Jean-Luc Guignard, pour votre accueil au sein de votre association Rue Lyonnaise à Angers dans la Doutre. Donc vous avez donné la date. Franche Culture se termine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous et très très belle semaine à vous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.